Bonsoir. Le Trésor public congolais a collecté 18 milliards de francs congolais au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération IPR en sigle pour le seul mois de janvier 2020. L'information a été donnée hier lundi à Kinshasa par la ministre de la fonction publique au cours d'une conférence de presse. Selon Yolande Ebongo, en prélevant cet impôt, le gouvernement ne fait qu'appliquer les lois qui ont été votées au Parlement. De son côté, le collectif des syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur et universitaire dénonce la manière dont cet impôt a été prélevé par le gouvernement. Ce collectif estime que le pourcentage à prélever selon les catégories des fonctionnaires n'ont pas été respectés. Quelle est l'importance de l'IPR dans les finances publiques congolaises? Que faire pour ne pas préjudicier les assujettis à cet impôt? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Yolande Ebongo, ministre de la fonction publique. Madame la ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur David Louboya-Mbélé, président du collectif de syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur Loubo, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Et Fabrice Ngabo, il est chercheur en fiscalité et finance. Monsieur Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux, vous, auditeurs de Radio Okapi, à envoyer vos réactions. C'est le cas de Henri Kassongo-Moulinda depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. À mon avis, l'impôt est un devoir pour tout Congolais, mais le problème, c'est la gestion de cet impôt que la population paye. Qui profite cet impôt et comment est-il utilisé? Fikiri Tchomba, retenir 15% de l'impôt sur les salaires du fonctionnaire, ce n'est pas du tout mauvais, mais il faut se demander 15% sur quel salaire? En prenant ces 15%, combien va rester aux fonctionnaires? Merci de nous suivre à Goma au Nord Kivu sur la 93.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
18 milliards de francs congolais sur l'enveloppe issue des recettes de l'IPR pour le seul mois de janvier 2020. L'information a été donnée hier lundi par la ministre de la fonction publique au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. L'IPR est prélevé chez les fonctionnaires congolais depuis le mois de janvier. Et selon Yolande Ebongo, en prélevant cet impôt, le gouvernement ne fait qu'appliquer les lois qui ont été votées au Parlement. La ministre de la fonction publique recommande aux agents de l'État de s'impliquer pour la mobilisation des recettes à travers les paiements de l'impôt. D'autres points de l'adresse de la ministre, avec vous Blaise Makassi.
Dans la loi des finances 2020, note la ministre de la fonction publique, il est inscrit l'application de l'impôt professionnel sur le revenu selon la tranche barémique de tout fonctionnaire de l'État. Cela permet de mobiliser les ressources pour améliorer les conditions de vie des populations et les pouvoirs d'achat. Yolande Ebongo.
L'impôt est fixé à 3% pour la tranche de revenus de 0 francs à 1 944 000 francs congolais. 15% de 1 944 000 francs congolais à 21 600 000 francs congolais. 30% de 21 600 000 francs congolais à 43 200 000 francs congolais. 40% pour le surplus.
Pour elle, la préoccupation fondamentale est l'amélioration du traitement des agents et fonctionnaires de l'État. Elle plaide pour l'implication de tous dans la sensibilisation des compatriotes à payer l'impôt parce que les résultats obtenus au mois de janvier sont très encourageants.
Aujourd'hui, le Trésor public a pu encaisser près de 18 milliards pour le mois de janvier.
La ministre de la fonction publique promet l'organisation d'un atelier sur la politique salariale, la mise en retraite d'au moins 17 000 fonctionnaires, le rajeunissement de cadres de l'administration et les mécanismes à mettre en place pour démanteler les réseaux d'effectifs et maîtriser les effectifs des agents de l'État.
Merci Blaise Makassi. De son côté, le syndicat des cadres et agents de la fonction publique des secteurs des mines, métallurgie et autres services demande au gouvernement d'alléger les taux d'imposition de 15 à 5%. Selon Roger Nyangwile, secrétaire général adjoint de ce syndicat, les salaires du fonctionnaire de ces secteurs est incapable de supporter un impôt de 15%. Il a déclaré hier lundi à Kinshasa au cours d'une rencontre d'échange de vœux entre les membres de ces syndicats. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous nous sommes convenus avec les gouvernements de payer d'abord à partir du mois d'avril les 150 dollars aux huissiers. Ça c'est de un. De deux, nous nous sommes convenus encore avec les gouvernements de convoquer la commission paritaire au mois d'avril pour déterminer la politique salariale. Cela nous permettra justement d'avoir une base réellement imposable. Donc nous aurons à faire un éclatement entre les traitements des bases et les avantages sociaux. Pour l'allègement, nous avons demandé au gouvernement de revoir les taux. 15% c'est quand même beaucoup. Puisque jusque-là, le fonctionnaire de l'État n'a pas encore un salaire. Et c'est pour cela qu'il a été convenu que nous puissions voir les parlementaires au mois de mars pour discuter avec eux et obtenir cet allègement. Nous pensons que on peut même descendre jusqu'à 5%, je crois que ça nous aiderait. La première base qui sera imposable, c'est sur les traitements des bases. Alors sur les traitements des bases, on va retenir 2500 aux agents et 4000 francs aux cadres. Alors maintenant, sur toutes les primes, on va retenir 15%. 15% c'est trop pour un fonctionnaire qui ne gagne pas grand-chose, puisque on a payé, chacun a vu son enveloppe, mais ce sont des pleurs, puisqu'ils sont venus nous poser beaucoup de questions. Bon, il fallait fournir beaucoup d'explications et ça n'a pas été facile.
15% c'est trop pour un fonctionnaire, madame la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo. Le gouvernement se réjouit de 18 milliards de francs collectés au titre de l'impôt professionnel sous la rémunération EPR pour le seul mois de janvier. De l'autre côté, les syndicats des différentes associations des fonctionnaires dénoncent la manière dont cet impôt professionnel sur le revenu a été prélevé par le gouvernement. Les fonctionnaires estiment que les pourcentages n'ont pas été respectés, Madame la ministre.
Merci beaucoup, Madame. Le pourcentage n'a pas été respecté, j'en doute. Parce que nous avons une loi de finances de 2020 qui est intitulée loi de finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020, qui stipule en son article 17 que le paragraphe 1er, le paragraphe 4 de l'article 84 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969, relatifs aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés comme suit. C'est la loi qui vient d'être modifiée. Ce n'est pas le gouvernement qui a bougé le taux de l'IPR, mais c'est le Parlement, de par ses prérogatives, qui a modifié la loi en ces termes. Je suis en train de vous lire la loi des finances 2020, madame. Vous l'avez d'ailleurs bien dit au départ. Le 3% revient à la tranche des revenus de 0 à 1 944 000 francs congolais. Et ça ne concerne que les primes. Cet hyper de 15% ne concerne que les primes. Nous ne sommes pas au niveau des salaires parce que le salaire est très bien clair. On retient 4 000 francs pour les cadres, 2 500 pour les agents. Mais pour tout ce qui est question de primes, la loi a modifié pour que finalement chaque revenu puisse contribuer aussi en termes de rétrocession au niveau du trésor public. Nous sommes des citoyens congolais, nous sommes un état de droit, nous avons des besoins en termes de dépenses qui sont repris dans le budget de l'État, mais nous avons besoin aussi de recettes qui doivent aider à pouvoir faire face aux dépenses qui ont été identifiées et qui ont été votées dans la loi budgétaire 2020.
Mais c'est pas le constat fait par les fonctionnaires, madame, puisque vous dites que les 15% ne concernent que les primes, mais apparemment, lorsqu'on suit les fonctionnaires, ça a été pris sur les salaires.
Pas du tout, madame. Vous pouvez vérifier l'information. Je sais qu'il y a une asymétrie de l'info qui est autour. Et aussi, vous savez que la spéculation prend toujours une partie quand il y a des discussions à chaud, mais je crois que la question doit être examinée à froid et rentrer toujours dans les textes. Je viens de vous lire la loi des finances 2020, elle est claire là-dessus. Et l'impôt, l'hyper de 15% est perçu sur les primes. Il y a des administrations où il y a autant de primes, et autant de primes veut dire récupérer 15% de l'enveloppe globale pour retourner au trésor public en termes de contribution en tant que devoir civique. Donc les 15% n'ont jamais été perçus sur le salaire d'un fonctionnaire, C'est faux et archi faux et je vous demande de vérifier l'information, madame.
Alors, c'est l'IPER a été institué depuis 1969, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi on l'a jamais appliqué sur les primes depuis tous ces temps dans les secteurs publics et c'est aujourd'hui qu'on voudrait l'appliquer?
Eh bien voilà, madame, la raison d'être de l'application même de la loi. Nous sommes dans un pays de droit, un pays qui est régi par des textes et lois. Mais pourquoi nous n'arrivons pas toujours à appliquer nos propres lois? Vous savez une chose, madame, les dons que nous recevons des partenaires étrangers proviennent d'où? Proviennent des contribuables de ces pays-là. Ce sont les citoyens de ces pays qui payent l'impôt dans leur pays et le peu d'épargne qu'ils font à leur niveau nous ramène ici ou nous envoie dans notre pays en termes de dons, de prêts, ainsi de suite. Nous sommes des citoyens congolais. Le moment est arrivé parce que nous parlons du changement aujourd'hui. Rentrons dans le changement, dans le respect des textes et l'application des textes. Et parmi les moyens qui doivent aider l'État à pouvoir faire face à sa politique, c'est notamment la perception d'impôts et textes. C'est l'un des moyens que l'État a pour pouvoir trouver des moyens et pouvoir aussi améliorer le social de sa population. Donc je ne pense pas que la question de la loi de 69 a été mis dans le tiroir, même si à l'époque nous avions eu une culture de subvention, parce qu'à l'époque avec les régimes existants, les chefs étaient en train de subventionner tout ce que les citoyens devaient prendre comme charge en termes d'impôts, et la culture est entrée dans les chefs de Congolais aujourd'hui. À l'époque, c'était les Aïrois, mais je crois qu'il est plus que temps que nous puissions rentrer et commencer à vivre, à asseoir en nous cette culture fiscale. Parce que nous ne pouvons pas nous développer, madame, sans pour autant payer l'impôt. Nous sommes des citoyens quand même.
Il y a cet auditeur, madame la ministre, il y a cet auditeur, Samy, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci, oui. les fonctionnaires veulent bien payer l'impôt, mais ce qui nous dérange, c'est ce que l'État fait de cet argent qu'il collecte. Les gens ont perdu toute confiance à payer l'impôt, c'est qu'il écrit, parce que la gestion de l'argent perçu est opaque et ça décourage les assujettis. Je vais compléter avec cette autre réaction de Henri Kasongo-Moulinda depuis Kisangani qui dit ceci, à mon avis, l'impôt est un devoir pour tout Congolais, mais le problème c'est la gestion de cet impôt que la population paye, à qui profite-t-il?
Très bien madame, ça c'est une très bonne chose, c'est une très bonne information que je reçois. Vous voyez le devoir civique aujourd'hui qui est en train d'être finalement mis sur la place publique, sur la table, et tous les Congolais convaincus qu'il doit payer son impôt. Mais là où le problème demeure aujourd'hui, c'est de savoir, justement dans le cas des fonctionnaires, qu'est-ce que le fonctionnaire récupère au retour, quelle est la qualité de son traitement. Et je vais loin par rapport à la préoccupation d'un compatriote tout à l'heure. Que faisons-nous de cet impôt collecté? Nous avons des besoins dans ce pays. Nous voulons arranger nos routes, nous voulons améliorer la desserte en eau potable, nous voulons arranger la desserte en énergie électrique, l'accès aux soins de santé. Tout cela ne peut être possible que si l'État a des moyens. Et parmi les moyens, justement la perception d'impôts. Dès que la caisse de l'État est remplie, il peut faire face à toutes ces dépenses sociales. Et c'est ce qu'on appelle l'amélioration du social de la population. Mais pour que cette amélioration soit possible, il faut le redressement des institutions par la base. Donc le fait qu'aujourd'hui les fonctionnaires ont accepté de démontrer de leur capacité et leur sens de responsabilité de pouvoir assurer ses devoirs civiques, au retour, le gouvernement est là dans le cadre de sa politique de pouvoir amener le changement à travers une bonne gouvernance économique et financière. Le travail doit se faire.
Merci, et madame.
La raison d'être même, madame, de l'atelier sur la politique salariale, parce que c'est là où le fonctionnaire doit se retrouver au retour. Il a payé son impôt, très bien, l'État a des moyens. Voyons maintenant comment améliorer les traitements des agents et fonctionnaires de l'État.
Merci, encore madame la ministre. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de passer la parole au professeur David Lubo Yambele, qui est président du collectif des syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur, vous estimez que le pourcentage n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, professeur? Vous dénoncez la manière dont cet impôt professionnel sur les revenus a été prélevé par le gouvernement.
Merci, madame la journaliste. Je salue d'abord madame la ministre. D'abord pour son courage, parce qu'il y a des ministres qui nous ont fui lors des débats sur la radio Capi. Elle au moins montre que on peut débattre. Et je la félicite pour ça. Et je profite pour lui dire que, avant toute chose, est-ce qu'elle connaît les nombres de fonctionnaires qu'elle gère? Deuxièmement, une deuxième petite question, est-ce qu'elle sait que il y a des fonctionnaires qui ont été recensés, dont les professeurs, les chefs de travaux assistants et les administratifs des universités et instituts supérieurs, mais qui n'ont jamais touché les salaires de base? Je pense qu'elle devrait commencer par s'attaquer à cette question-là avant de parler de l'impôt. Deuxièmement, il y a trois, quatre petites remarques. La première est que l'impôt est un devoir citoyen, nous sommes prêts. La deuxième, qui est relative à votre question, c'est la manière dont on a coupé. Et je voudrais d'abord dire en troisième lieu que les régimes sortants coupaient déjà cet impôt du salaire de base. Elle n'a qu'à voir, si elle n'a pas encore vu, les listings de janvier 2019 à décembre 2019, elle va trouver que on avait déjà coupé cet impôt, ça varie entre 2500 et 4500, comme elle a dit. Donc, ce n'est pas une nouveauté, on a déjà coupé, on a déjà retenu l'impôt sur les salaires de base. Un autre élément qui m'amène à répondre à votre question, c'est la manière dont on a coupé. J'ai deux cas précis. Deux chefs de travaux, dont l'un touche les salaires de base, qui se chiffre à 162 684. Et l'autre n'a pas ce salaire-là, mais comme prime, ils ont chacun 624 000 francs et 131 000. 624 131 francs congolais. Et à la retenue, tous ont payé l'IPR forcé à 93 000 francs congolais. C'est déjà une entorse. Comment celui qui a les salaires de base et celui qui n'en a pas peuvent être tous frappés, alors que il y a un principe fiscal qui dit non bis idem. L'impôt ne peut frapper qu'une seule matière. Alors pour le cas qui nous concerne, c'est une seule rubrique. Et il y a les pourcentages. Je crois que quand je parle là, quand elle a donné les différentes catégorisations, bon, on part de 62 jusqu'à 1 million 900 quelque chose. Uh-huh. Mais on remarque que lorsqu'on retient pour quelqu'un qui a 624 000 francs, lorsqu'on lui retient 93 655 francs congolais, si c'est ça les 15%, je crois que les calculs sont à refaire. Donc, je ne pense pas que 624 000 francs, 93 000, ça coïncide de 15%. Passons au professeur. Mais quelqu'un qui a plus ou moins 2 900 000, on lui retient 472 000. Et un autre qui a moins que ça, parce que les grades diffèrent, on lui retient le même montant. Et j'ai dit que moi, j'ai consulté les listings. Les éléments que je vous donne là, elle n'en a pas parce qu'elle n'a pas consulté. Ce sont les éléments qui montrent que l'impôt, bien qu'étant un devoir citoyen, l'impôt a aussi un caractère social. Et nous voulons dire à madame que les cas que nous venons d'évoquer montrent que la justice sociale n'y est pas.
Alors, professeur, si on vous comprend bien, vous n'êtes pas contre le prélèvement de l'impôt, mais la manière dont la coupe se fait.
Nous ne sommes pas contre, et nous insistons sur, sur des faits. D'abord, nous pensons que le gouvernement qui a augmenté nos salaires, même si maintenant ça ne représente rien, retenait l'impôt à, de 2500 francs, comme madame l'a dit, et de 4000. Et ce gouvernement a réussi à amener les salaires là où il est. Et ils l'ont trouvé à ce niveau-là. Et je dis que ce sont les opposants qui ont pris le pouvoir, qui critiquaient ce salaire-là. Au lieu de l'augmenter, ils les soustraient.
On a perdu le professeur, on va essayer de le retrouver. Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur en fiscalité et finance. Les trésors publics congolais a collecté 18 milliards de francs congolais au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération pour le seul mois de janvier, ce qui est une bonne chose pour le pays. Mais de l'autre côté, les fonctionnaires se plaignent de la manière ou la façon dont cet impôt a été prélevé. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que vous comprenez un peu cette cette revendication des fonctionnaires?
Bien, merci madame. D'abord, je commence par vous remercier pour l'invitation. Ensuite, je salue de nombreux auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent maintenant. Je salue également les invités, madame la ministre et monsieur le professeur, qui sont les deux qui sont en ligne. Alors, l'importance de l'IPR dans les finances publiques, la question elle est bonne, mais elle est tellement triviale qu'il est difficile de le démontrer maintenant. En fait, l'IPR, l'impôt professionnel sur les rémunérations, comme d'autres impôts d'ailleurs, constitue la source par excellence des ressources financières des États, notamment notre pays. Alors, la question, le débat de l'IPR sur les rémunérations du personnel de l'État remonte pratiquement à la promulgation de la loi des finances 2020 par le président de la République. Et la façon dont ce débat est mené, dont l'impression aujourd'hui, que c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Je suis content que Madame la ministre l'ait aussi relevé. C'est un impôt qui est prévu depuis 69.
Mais qui n'avait jamais été appliqué ou prélevé.
Justement, je vais en arriver là. Alors, il y a lieu de rappeler que déjà la Constitution prévoit que toute la contribution des charges aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant dans notre pays. Et la loi de 69, je crois, en son article, je crois que c'est là que se trouve le débat, en son article 87, parle de revenus occasionnels. Il y a lieu de faire un distinguo entre le salaire de base et ce que je qualifie des avantages. Ça, c'est une matière éminemment fiscale qui relève de la science des impôts et de la technique fiscale. Il faut y aller doucement. D'abord, quelle est la base imposable de l'IPR? C'est ça la vraie question. La base est constituée de deux sortes de revenus. Vous avez d'une part les salaires dont bénéficie le personnel de l'État, qui est imposé depuis 69. Ce n'est pas, ça c'est une précision importante, je pense. Ce n'est pas depuis janvier 2020 que le salaire des travailleurs, des fonctionnaires de l'État sont prélevés, sont fiscalisés. C'est depuis 69. Alors, d'autre part, vous avez une catégorie des revenus qui sont constitués essentiellement des revenus occasionnels. Il n'y a pas que les primes. Il y a aussi les autres avantages qui peuvent être accordés au personnel de l'État, mais qui dépassent le caractère légal. Alors, la loi des 69 parle de ce taux de 15% pour ses revenus occasionnels. Mais le taux à utiliser dans le calcul de l'IPR, c'est plutôt le barème progressif par tranche. Tel que le ministre précédemment l'a rappelé, il y a 4 tranches de revenus et la philosophie de l'IPR en ce qui concerne la rémunération de base, n'est-ce pas, évolue, l'impôt évolue suivant l'importance des revenus. Mais il y a lieu quand même de comprendre la préoccupation des professeurs et les syndicats qui ne sont pas d'accord. En fait, le vrai débat, c'est que déjà la rémunération ou les revenus des travailleurs de l'État sont faibles. C'est ça le vrai débat. Et le professeur l'a dit aussi, c'est pas qu'ils sont contre les paiements de l'impôt, mais déjà Les bases sont fausses. D'abord, les rémunérations sont faibles. Alors, pourquoi le même débat ne se pose pas dans le secteur privé? Parce que vous dites pourquoi seulement aujourd'hui que l'on prélève les revenus dessus. Dans le secteur privé, les choses sont ordonnées. Depuis longtemps, la base imposable à l'IPR, est conçue non seulement de la rémunération de base, mais de tous ces autres revenus-là. Et ça ne pose pas problème, ça se prélève depuis tout le temps. Mais bon, le professeur parlait de la justice fiscale, mais est-ce que de l'équité, est-ce qu'il est normal dans un pays que les mêmes règles soient appliquées dans les secteurs privés, n'est-ce pas? Et dans les secteurs publics ne sont pas appliquées, voyez-vous? Et donc, mais je crois que la motivation du gouvernement à appliquer, ou disons du législateur, le parlement, n'est-ce pas, à vouloir appliquer ces dispositions ici et maintenant, c'est parce que simplement, on doit le dire clairement, il y a une grande pression qui est exercée sur le gouvernement de réaliser les budgets des 11 milliards qui a connu pratiquement une hausse de prévision de plus de 50%. Voyez-vous? Alors, le gouvernement, déjà le Premier ministre, vous allez vous rappeler, lors de la présentation de ce projet de loi des finances, il avait effleuré ces éléments ici. Et donc moi je veux dire
qu'il faut trouver les moyens par tous les moyens, partout on peut prélever un peu d'argent, il faut y aller.
Justement. Ici, je crois qu'il y a lieu de noter que les meilleures voies par lesquelles le gouvernement devrait avoir non pas seulement 18 milliards de francs congolais, pratiquement 10 millions de dollars, les meilleures voies par lesquelles le gouvernement devrait avoir les ressources conséquentes, c'est notamment le terrain de lutte contre les pratiques fiscales illégales. Madame, dans ce secteur, il y a à boire et à manger. Vous allez, moi particulièrement, je fais partie d'un groupe de chercheurs qui, depuis le 14 octobre 2019, avait proposé au président de la République un mécanisme efficient, pratique, contraignant et répressif pour mettre fin aux pratiques fiscales illégales. Non seulement le président de la République nous a jamais répondu à ces sujets, mais nous constatons que aujourd'hui, les signaux des mobilisations des recettes ne présagent pas un bel avenir. Vous avez suivi comment il a été déploré la faible mobilisation des recettes. Il y a pratiquement un déficit pour le mois de janvier et j'ai l'impression que Madame la ministre et les autres membres du gouvernement se réjouissent pour avoir réalisé 18 milliards sur les pauvres fonctionnaires de l'État.
Merci.
Pendant que là où des milliers de ressources échappent à l'État, on a l'impression que ce n'est pas une priorité du gouvernement.
Merci,
je crois que le
Fabrice
débat doit plutôt être orienté à ce niveau-là.
Mais
madame, avec votre permission, une seconde. Mais pourquoi seulement aujourd'hui on mène ce débat sur les rémunérations du secteur du personnel de l'État? Il y a aussi l'IPER sur les rémunérations du personnel politique. Mais
on va poser cette question à Madame la ministre qui est avec nous dans ce débat. Madame la ministre, on va prendre les auditeurs qui sont très très nombreux à écrire et à appeler. On va prendre cette réaction pour vous, Madame la ministre, qui nous vient de Kananga.
C'est Tim Kabongo depuis Kananga. L'impôt professionnel sur revenu est d'une grande importance dans les finances publiques d'un pays. Nul ne doit ignorer que c'est grâce au prélèvement des impôts et des taxes que l'État parvient à couvrir les dépenses publiques. Toutefois, l'application de cette mesure, comme elle a été faite, laisse à désirer car elle ne respecte pas les tranches qui ont été fixées. Selon la fixation du taux par tranche, le taux de 15% devrait être appliqué sur ceux ayant un revenu allant de 1 944 000 à 21 600 000. Mais le constat est tout autre. Ce taux a été appliqué pour tous les fonctionnaires de l'État, créant donc un déséquilibre total. Sachant que la plupart des fonctionnaires congolais ont un maigre salaire, il aurait été préférable de respecter l'application des taux par tranche, soit voir dans quelle mesure augmenter les salaires de ces fonctionnaires et enfin appliquer les taux de 15%.
Madame la ministre, réaction, vous allez réagir aussi aux propos du prof et de notre analyste Fabrice Ngabo.
Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je remercie le professeur David pour ses préoccupations ainsi que notre fiscaliste de tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a, comme le fiscaliste venait de le dire, il y a quand même quelque chose et savoir où situer les débats.
Le débat au jour d'aujourd'hui, je pense à mon humble avis, ne réside pas autour du paiement de l'impôt parce que tout le monde est convaincu que c'est un devoir civique. Mais plutôt, nous devons réfléchir dans le sens de comment améliorer le social de Congolais. C'est là où le débat réside. Nous payons l'impôt, oui, mais que fait l'impôt au retour par rapport aux préoccupations et aux attentes de la population? Et c'est le travail que le gouvernement est en train d'abattre. Je suis ministre de la fonction publique, je gère un effectif au jour d'aujourd'hui qui environne 1 400 000 agents de l'État sur toute la République et l'effectif a été budgétisé en termes de salaire pour 2020. Là, j'informe monsieur le professeur David par rapport aux effectifs, mais je suis d'accord avec lui par rapport aux aspects de maîtrise des effectifs, et c'est le sens même de la réforme de l'administration publique. Aujourd'hui, nous avons ces défis tous, dans tous les secteurs de l'administration publique, de pouvoir maîtriser nos effectifs. Combien de professeurs nous avons dans ce pays qui travaillent réellement pour le secteur de l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur? Combien de médecins nous avons aujourd'hui qui travaillent réellement et au profit de l'État dans le secteur de la santé? La liste est longue, vous pouvez compléter, madame. C'est pour dire qu'un travail est en train d'être abattu au niveau de la fonction publique aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, pour remettre les choses sur les rails. Nous devons finalement savoir qui est fonctionnaire, qu'est-ce qu'on appelle agent de l'État, qu'est-ce qu'il amène dans le trésor de l'État, en termes de sa production, parce que l'agent de l'État doit finalement être productif et dans tous les secteurs de l'administration publique. Alors, les professeurs est censé, les chefs des travaux et tout, qui n'ont jamais été mécanisés, qui n'ont pas touché leur salaire. Oui, le travail est encore en train d'être fait dans le sens d'examen au cas par cas de toutes ces questions. Vous savez que le gouvernement qui est mis en place et qui travaille aujourd'hui est issu des élections de 2018. J'aimerais savoir du côté du professeur, le recensement des professeurs, chefs des travaux et tout, a été fait en quelle période? Est-ce que le recensement a été fait suivre juste après de la mesure conservatoire qui a suspendu le mouvement du personnel, qui jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore levé? Parce que, à mon humble avis, il va falloir affecter d'abord les secrétaires généraux qui ont concouru en 2018 et qui doivent récupérer leur poste pour travailler selon le respect des textes. Après quoi, ces secrétaires généraux vont devoir, chacun dans son secteur, procéder à la mise en place et à la mécanisation ou à la titularisation selon le cas de son
Madame la ministre, l'impôt l'hyper, s'il vous plaît, Madame la ministre, l'hyper est prélevé sur les rémunérations de tous les fonctionnaires de l'État et c'est là dans toutes les institutions, commençant par la première institution qui est la présidence de la République jusqu'à la dernière. Est-ce que cet impôt a été prélevé sur les...
Madame la journaliste...
Est-ce que je peux poser ma question, Madame la ministre? Est-ce que cet impôt a été prélevé sur les rémunérations des fonctionnaires de la présidence, du Parlement, du gouvernement, Madame la ministre, ou bien ça a été juste prélevé sur le petit peuple, comme on le dit. Hein?
En tout cas, je voudrais vous rassurer, même moi qui vous parle maintenant là, l'impôt professionnel sur les rémunérations a été retenu dans mon propre traitement. Moi, ministre de la fonction publique, je sais que ça fait très mal. Ça fait très mal par rapport au pouvoir d'achat aujourd'hui, mais c'est un devoir civique. Ça veut dire que ça concerne tout le monde, dès la présidence jusqu'au petit peuple, en passant par les parlementaires eux-mêmes.
Merci.
Tout le monde a payé l'impôt, tout le monde, on a retenu l'hyper sur tout ce qu'on appelle Congolais.
Merci.
Il y a un revenu quelconque.
Merci, madame.
Mais l'impôt a été prélevé, madame. Mais je voudrais quand même...
Je veux vous redonner.
Les lanternes de mes...
Je veux vous redonner la parole. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Le temps pour nous de prendre cette réaction qui nous vient de Bukavu pour le professeur David.
Mitiza Akulimu Chevariste depuis Bukavu, province du Sud-Kivu. Je peux lier l'insatisfaction de ce collectif à l'apparition d'une innovation qui a toujours créé de tendances d'opinion. Le prélèvement de cet impôt étant encore une nouvelle pratique en République démocratique du Congo, je proposerai qu'au-delà de cette dénonciation, ces collectifs de syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur et universitaire puissent féliciter le gouvernement pour cette mesure de mobilisation des recettes qui manque cruellement au pays et qu'il l'accompagne surtout dans la matérialisation de l'action où il sera affecté afin d'éviter qu'il serve plutôt au service de collecte par l'action de la communauté tout entière, tel qu'il avait toujours été le cas.
Professeur.
Merci, madame. La préoccupation de notre auditeur de Bukavu, nous la partageons. Et je crois que nous sommes tous mobilisés. Mais je voudrais d'abord relever quelque chose dans les dires de madame. 18 milliards de francs congolais, et Fabrice Ngabou l'a affirmé. Donc, c'est plus ou moins 10 millions de dollars. Alors, lorsque vous prenez plus ou moins 10 millions, parce que j'ai fait des calculs, ça va nous donner pour cette année, c'est-à-dire de janvier en décembre, c'est 123 millions de dollars. Est-ce que madame est heureuse et contente de trouver que pour 123 millions de dollars, on peut pénaliser 1 million de familles, selon les statistiques qu'elle vient de donner? Bon, je suis convaincu qu'il y a des montants assez importants qui prennent des destinations inconnues. On a parlé de 200 millions de la Gécamine. Donc, si il faut vraiment baser toute la politique salariale du gouvernement sur l'impôt, je crois que c'est une manière qui n'est pas caractérisée par une certaine congruence. Et je crois que c'est voué à l'échec. Parce qu'avec 123 millions, qu'est-ce qu'on va en faire dans les 12 mois? Nous pensons qu'il y avait moyen de trouver d'autres mécanismes pour mobiliser plus que ça, mais en dehors de l'impôt. Et je reviens, j'insiste sur le fait que les salaires que nous avons, c'est sur l'impôt qui était retenu sur les salaires de base. Donc, rien n'a changé. Alors, madame a dit que nous sommes dans un état de droit. Mais ça se dit que l'État n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs. Où sont parties les allocations familiales? Où sont parties les indemnités kilométriques? Où sont parties ce qu'on appelait la situation familiale? Où est partie la situation familiale? Donc tout cela montre qu'on est allé, on a visé les maillons faibles. Alors, cela nous montre que la justice sociale telle que prônée dans l'économie sociale du marché n'est pas le leitmotiv du gouvernement actuel. Et je voudrais que madame rencontre nos préoccupations sur la conjoncture actuelle. Elle sait que les prix s'emballent, même aujourd'hui. Elle sait que l'inflation est galopante. Elle sait que les salaires étaient déjà insignifiants. J'insiste sur le fait que c'est laissé par l'ancien régime. Donc, comment un régime qui était dans l'opposition, qui condamnait les salaires modiques, peut commencer par ponctionner? Et il y a un auditeur qui s'est demandé, je vois c'est Kabongo de Kananga, qui a parlé de la destination de cet argent. Ça, c'est un autre problème.
Merci, professeur.
Mais nous sommes, si vous pouvez m'accorder une seconde.
Allez-y.
Nous sommes prêts pour l'impôt, mais nous disons, mais parce que les salaires que nous avons ont été donnés sur base d'un impôt de 2500 et de 4500. Selon qu'on est cadre ou selon qu'on est agent.
Merci, professeur.
Celui qui n'a pas augmenté un seul euro peut appliquer directement les 15%.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole pour la conclusion. Fabrice Gambo, on va prendre aussi pour vous rapidement aussi cette réaction qui nous vient de Mujimaï.
Je m'appelle Jeff Ntumba Muto Kamunda. J'appelle à partir de Mujimaï, province du Kassai Oriental. Le gouvernement devrait d'abord constater les irrégularités salariales qu'il y a dans notre pays avant de prendre cette mesure. Pourquoi? Parce que cette mesure va paraître donc une mesure de satisfaction pour une catégorie de la population et les autres vont aussi donc, ne vont pas se contenter par rapport à cette mesure. Parce que le raisonnement qu'a émis la ministre de la fonction publique, donc elle s'appuie plus sur cette loi qu'elle est votée par le Parlement congolais, qu'elle soit votée ou non, mais quand même on doit revoir les choses.
Alors, Fabrice Ngambo, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas préjudicier les assujettis à cet impôt?
Merci beaucoup. Pour ne pas préjudicier les assujettis ou si vous voulez bien les contribuables, eh bien c'est simple, la première des choses. Il faut d'abord améliorer les conditions salariales de ces contribuables-là. Combien perçoivent les fonctionnaires de l'État? Ils perçoivent dans leurs catégories différentes des sommes dérisoires. Il faut d'abord s'attaquer là-bas. La deuxième chose, il faut aussi s'attaquer à l'amélioration du pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat pose la problématique de la gouvernance de l'État, n'est-ce pas? Et je vous dis, madame, la situation, je ne suis pas prophète de malheur, mais la situation est en train d'aller de mal en pire. Je vous dis que nous serons dans ce studio en 2021 pour évaluer l'exécution de ce budget en 2020. Nous allons constater que ce budget sera réalisé à concurrence de 5-6 milliards. Parce que simplement, il y a un problème. On a manqué d'approche.
Merci.
Dans la lutte contre les pratiques fiscales illégales qui pourtant cachent la partie la plus importante des revenus dont plutôt devait bénéficier l'État. Et je crois que l'État devait prendre avec moins de considération les revenus ici. Des rémunérations de travailleurs de
Ngambo. Madame de la ministre, votre conclusion, que faire pour ne pas préjudicier les assujettis à cet impôt? Ça sera votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Voilà une voie de sortie pour ne pas préjudicier. C'est l'atelier sur la politique salariale. Je crois que toutes ces questions qui ont été évoquées par mes compatriotes vont être trouvées, enfin vont être traitées dans cet atelier-là. Que revient aux fonctionnaires agents de l'État en termes d'allocation familiale, l'indemnité kilométrique, le transport, ce sont autant des rubriques qui composent une rémunération.
Merci.
Le revenu ne veut pas dire salaire, le revenu ne veut pas dire prime, le revenu ou rémunération.
Merci, madame. Merci, madame la ministre, professeur, votre conclusion.
Oui, merci. Je pense que. Parce que madame a demandé, le dernier contrôle qu'on a effectué.
Professeur, il faut conclure, on n'a plus beaucoup de temps.
Novembre 2019.
On n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé.
C'est votre... Nous pensons que si l'État ne revoit pas cette mesure, nous assisterons à des remous sociaux et la machine va se bloquer d'elle-même.
Merci, merci professeur. Rapidement, une phrase.
Madame, comme conclusion, nous appelons le gouvernement et le président de la République, toutes les institutions, à un changement d'approche dans la lutte contre la corruption et changement, changement
des pratiques. Merci Fabrice Ngambo, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.